Il est 8h30 à Paris, à l'écoute de Radio France Internationale, 6h30, temps universel. RFI Matin, le journal. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Toutes les femmes, même détenues, ont des droits. Le cri d'alerte d'Organisation de Défense des Femmes à la une de ce journal. Une semaine désormais après la tentative d'évasion de la prison de Makala, plus grande prison de République démocratique du Congo, où selon Kinshasa, 156 détenus ont été violés sur un peu plus de 300 femmes emprisonnées. L'heure du bilan pour les 42 nations africaines qui ont pris part aux Jeux Paralympiques de Paris. Les compétitions ont pris fin hier, vous entendrez le chef de la délégation sénégalaise, édition parisienne mitigée, mais de l'espoir pour celle de Los Angeles. Notre dossier du jour consacré à la rentrée scolaire au Cameroun. Les autorités espèrent un retour à la normale après des dernières années marquées par des grèves d'enseignants. Dans les régions anglophones, en revanche, de nombreuses familles craignent d'envoyer leurs enfants à l'école après un confinement imposé par les séparatistes. Et puis la fin de ce journal, avec deux événements culturels. On parle mode à Kinshasa, on parle art à Johannesburg. C'était il y a une semaine. La prison de Makala, plus grand centre pénitentiaire du pays, était le théâtre d'une tentative d'évasion. C'est en tout cas ainsi qu'a été qualifié cet épisode par les autorités. Kinshasa, qui dans un dernier bilan, estime à 129 le nombre de détenus décédés ce jour-là et à 156 le nombre de femmes détenues violées. Des chiffres encore flous et surtout invérifiables, dénoncent les ONG de défense des droits des femmes, qui regrettent également de ne pas avoir accès à Makala pour venir en aide aux concernés. José Kitoko de l'organisation Filles et Femmes en Action pour la promotion, la protection et la défense des droits humains rappelle que ces victimes, même détenues, ont des droits.
Les femmes ont été violées dans l'endroit le plus sécurisé. C'est au-delà de l'entendement. Toute femme a des droits. Elle a commis une infraction ou pas. Toutes les femmes qui sont en prison, c'est pas toutes les femmes qui ont été jugées. Il y a des détentions préventives. Cette femme-là, qui n'était pas encore devant son juge, a été violée. Et peut-être qu'elle est innocente, mais elle vient de subir encore une autre atrocité. Nous demandons qu'ils nous laissent l'accès, puisque ces femmes-là doivent porter plainte. Ils ont besoin des soins appropriés. Ils n'ont pas de kit pour les soins après le viol. La prise en charge, c'est dans 72 heures. Mais lorsqu'il y a déjà dépassement des délais par rapport à la prise en charge, on s'entend à beaucoup de choses. Des maladies sexuellement transmissibles, le VIH, les grossesses non désirées. C'est inadmissible.
José Kitoko, jointe par Alexandra Branjon. Je précise que les autorités congolaises ont commencé à entendre vendredi dernier en audience foraine les détenus accusés de viol. La République démocratique du Congo encore, cap à l'est cette fois, précisément dans la province du Sud Kivu, où le gouverneur Jean-Jacques Purusi a donné rendez-vous aux habitants hier au stade de La Concorde de Bukavu. Il y a réaffirmé devant une foule nombreuse sa détermination à lutter contre la corruption, mais aussi contre l'exploitation illégale des minerais. Selon lui, sa récente décision de la suspendre a permis aux autorités provinciales de renflouer les caisses du trésor public. Et cela en moins de 100 jours. William Bassimike a assisté à cette cérémonie pour RFI. Reportage.
Devant des milliers de personnes venues l'écouter au stade, le gouverneur Jean-Jacques Purusi dit avoir trouvé uniquement 195 000 dollars américains dans les comptes du trésor public lorsqu'il a pris ses fonctions fin juin dernier. Depuis son coup d'écolier, les chiffres sont à la hausse.
Nous avons mobilisé le mois de juillet 1 100 000, le mois d'août 1 500 000 dollars au total. Ça fait 2 600 000 environ. Nous pensons que ça, c'est vraiment insignifiant. Notre but, c'est d'aller au-delà, détecter les tricheurs, parce qu'il y en a beaucoup, et les mettre hors d'état de nuire.
La lutte contre l'exploitation illégale des minerais a permis de renflouer les caisses de l'État. Jean-Jacques Purusi affirme avoir le soutien du président Félix Tshisekedi et dit pouvoir faire encore mieux.
La province du Sud qui veut 14 fois plus riche que la province du Lualaba. Une entreprise étrangère qui exploite correctement, illégalement, génère au moins 20 millions de dollars par mois. Quand nous avons fermé ces entreprises, on s'est rendu compte que non, on n'attendait pas une cinquantaine, une centaine. C'est 540 entreprises qui sont au compte.
Samy Jean Takimbula, vice-président de la société civile du Sud Kivu, apprécie cette mise au point 2 mois après l'arrivée du nouveau gouverneur.
J'apprécie bien l'initiative du gouverneur des provinces. Nous aimerions à ce que ça soit répétitif.
Les gouverneurs du Sud Kivu précisent que les fonds collectés grâce aux taxes seront réinjectés dans des projets territoriaux afin de booster le développement des zones reculées. William Bassimike, Bukavu, RFI.
RFI, l'actualité du continent en bref. Abdelmadjid Tebboune va enchaîner un deuxième mandat consécutif à la tête de l'Algérie. Les résultats officiels, bien qu'encore provisoires, ont été annoncés hier soir. Le chef de l'État sortant a récolté 94,6% des suffrages exprimés selon l'autorité électorale. Mohamed Charfi, le président de cette autorité, a affirmé que 5 630 000 personnes sont allées voter, soit environ 23% des inscrits sur les listes électorales. J'ajoute que les deux adversaires du président réélu n'ont obtenu qu'un peu plus de 2 et 3% des votes. Le MSP, Mouvement de la Société pour la Paix, du candidat Abdelali Hassani, dénonce une mascarade à l'international. Le président français Emmanuel Macron a adressé hier soir ses plus vives félicitations à Abdelmadjid Tebboune. Paris, où il est 8h35. Paris, c'est fini. La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques a eu lieu hier au Stade de France. Une nouvelle fois en grande pompe, Paris a passé le relais olympique à Los Angeles. Et si les para-athlètes ont déjà les yeux rivés sur la côte ouest des États-Unis, ils sont nombreux à tirer le bilan de leur été olympique ou paralympique. Je vous propose d'écouter le secrétaire général en chef de mission et chef de mission du comité paralympique sénégalais. Le Sénégal qui comptait 4 para-athlètes à Paris. Les chances étaient donc maigres pour Yoro Libel Nyang. C'est donc un bilan mitigé pour des athlètes qui, selon lui, manquent toujours cruellement de moyens.
On peut l'appeler déception, mais aussi c'est une reconnaissance et vraiment on est très fiers d'ailleurs de tous les athlètes qui sont venus ici aux Jeux Paralympiques. On va continuer à travailler, on est très jeunes, on est aux Jeux depuis 2008. On va continuer à travailler, à bosser pour le futur à Los Angeles, montrer que le Sénégal est toujours là. Ça, on peut le considérer comme un lancement. C'est ça la prochaine étape, hein. L'État est conscient de ça, les autorités sont conscientes de ça, c'est ça la suite. Ils seront tous encadrés, bien préparés pour que demain on pourra crier fort que le Sénégal a rapporté la médaille. Même si ce n'est pas trop net, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais il y a le minimum que le Sénégal a fait. Maintenant, on va continuer à l'augmenter, à mieux le faire. Chaque mois, ils sont 2 ou 3 qui reçoivent une bourse. Chaque mois, ils ont un accompagnement pour qu'ils puissent venir faire leur préparation à partir de 6 mois des Jeux paralympiques. C'est très insuffisant, on est conscient de cela, mais on va continuer pour que ces athlètes ne viennent plus ici pour être au pied du podium, mais pour jouer les très grands rôles. Et c'est possible, ils ont le talent et ils ont la compétence, on peut le faire.
Le Sénégal et Yoro Libel Nyang au micro de Martin Guez du service des sports de Radio France Internationale. En Tanzanie, un opposant membre du parti Chadema retrouvé mort, Ali Mohamed Kibao, aurait été, selon le président du parti, enlevé vendredi par des hommes armés alors qu'il effectuait le trajet Dar es Salaam Tanga en bus. Des hommes qui l'ont battu puis aspergé d'acide, toujours selon Freeman Mbowe, ce dernier qui avait lui-même été arrêté il y a moins d'un mois avant un rassemblement de la branche jeunesse de Tchadema. Les vies des responsables de Tchadema sont actuellement en danger, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche. Notre dossier ce matin au Cameroun, jour de rentrée scolaire ce lundi, quelques 3 millions d'élèves du primaire et du secondaire retrouvent les chemins de l'école. Et les autorités espèrent une rentrée plus paisible après des années marquées notamment par de multiples grèves des enseignants regroupés au sein du mouvement OTS. Comprenez, on a trop supporté ou on a trop souffert. Polycarpe Samba à Yaoundé.
Pour ce lundi de rentrée des classes, aucun syndicat enseignant n'a appelé à la grève. Les enseignants sont donc attendus à leurs postes respectifs, même si avancent-ils, leurs revendications sont pour l'essentiel toujours d'actualité. Nous voulons donner une chance au gouvernement de faire montre de sa bonne foi dans la prise en compte de nos problèmes et surtout de leur résolution, déclare Tenkeng Samori Touré, porte-parole du mouvement OTS qui évoque une sorte de trêve dans les opérations de blocus des enseignements avec diverses actions soutenues par un chapelet de revendications touchant aussi bien à leurs conditions de vie que de travail. Très attendu, l'élaboration du statut de l'enseignant dont ils espèrent qu'il soit discuté au cours du Forum national d'éducation annoncé et promis par le gouvernement pour avril 2024, mais qui se fait toujours attendre. Pour les syndicats des enseignants, la date butoir raisonnable pour la tenue de ces assises, c'est fin décembre. Au-delà de cette date, et si rien n'est fait, les syndicats et le mouvement OTS indiquent qu'ils pourraient être obligés de tomber à nouveau la craie. À scruter également au cours de cette rentrée scolaire, la situation dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dans lesquelles l'éducation protection des enfants pâtis du contexte de crise sécuritaire qui y prévaut. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
Rentrée régulièrement perturbée par des grèves donc, et pour la 9e année consécutive par les conflits intercommunautaires dans les régions anglophones de l'ouest du pays. Les groupes séparatistes y ont imposé un confinement pour les 2 semaines à venir et de nombreux parents n'osent plus envoyer leurs enfants dans les établissements. Des tensions qui se répètent donc depuis 2016 au grand regret de Valentine Sema, président du syndicat des enseignants. Il est joint par Weli Diallo.
Cela fait presque 8 ans que la crise a débuté dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, dans le cadre de la lutte pour la réforme du système éducatif, et plus particulièrement celui du système éducatif anglais. Depuis, les enseignants de ces deux régions font l'objet de très sérieuses menaces. Nombre d'entre eux ont perdu la vie, ont été kidnappés. Un confinement nous a été imposé pour environ 2 semaines. On n'est pas censé aller à l'école, les enfants doivent rester à la maison, ils ne pourront commencer les cours qu'à partir du 2 octobre. C'est vraiment très perturbant pour nous, vraiment très très inquiétant pour nous. L'école devrait être un endroit libre. L'environnement scolaire, les apprenants, les enseignants ne devraient être soumis à aucune forme de menace ni de préjudice.
Détour par Johannesburg dans ce journal. Ce week-end s'y tenait la foire de l'art la plus importante du continent, la FNB Art Joburg. Rendez-vous sud-africain où étaient réunis une centaine d'artistes venus de 14 pays du continent. L'année dernière, quasiment toutes les œuvres exposées avaient trouvé acheteurs, parfois même pour la folle somme d'1 million d'euros. Et cette année encore, l'événement vient confirmer l'intérêt croissant des collectionneurs africains. Charlotte Cossé.
Le FNB Art Joburg joue un rôle essentiel dans le développement et le maintien d'un écosystème culturel commercial qui regroupe des artistes basés sur le continent et dans la diaspora, s'enorgueillissent les organisateurs de la foire. De l'Afrique du Sud au Zimbabwe, en passant par le Sénégal, le constat est le même. Les collectionneurs africains se font de plus en plus nombreux, abondent les galeristes. Ainsi, certains artistes africains sont recherchés et bien cotés sur les marchés. La galeriste dakaroise Cécile Fakouri, répondant à nos confrères des Échos, souligne par ailleurs l'émergence de collectionneurs régionaux. Certains structurent même leurs collections pour les présenter au public. De grands musées voient le jour, comme au Cap ou à Marrakech. Dans certains pays, une impulsion politique dans le sillage de la restitution des œuvres d'art encourage également la production contemporaine, comme au Bénin, avec la création d'un district des galeries d'art. L'année passée, le marché de l'art dans son ensemble a chuté de 18% selon un cabinet d'analyse londonien, le marché africain a lui mieux résisté, affichant une baisse de seulement 8%.
Et puis retour en RDC, la 4e édition de la Femme Fashion Show, l'occasion pour de jeunes créatrices de mode d'exposer leurs talents. Reportage Aurélie Bazara Kibangula.
Dans les coulisses, dernière ligne droite avant le défilé, créatrices et mannequins font les dernières retouches.
Les dernières préparatifs, donc là, on donne un coup de main au coiffeur.
La jeune garde affiche ses ambitions et ses revendications à travers ses créations, comme Allegrecia Kachama, styliste qui présente sa collection Imani.
J'ai un mélange de moderne et antique, en fait. Il y a des plumes, des coris, et puis le seul tissu moderne, je crois que j'ai, c'est du satin et du soie. Mon message était d'honorer la femme antique, la femme reine, pour honorer nos ancêtres qui furent des femmes battantes.
Toutes espèrent percer dans le milieu de la mode. Houston Nessy, créateur et organisateur du défilé.
L'idée de faire cet événement, c'est d'abord une plateforme en fait, qui fait la promotion en particulier des femmes œuvrantes dans le secteur de la mode, dont les stylistes, le mannequin, les coiffeuses, les maquilleuses, les accessoiristes, les artisanes, parce que dans notre société, c'est des métiers qui ne sont pas beaucoup plus mis en avant. Comme ça, et ils pourront aussi être visibles en fait, sur le marché.
Avec ces défilés, la Femme Fashion Show espère aussi séduire les acheteurs congolais et doper les ventes locales. Aurélie Bazara Kibangula, Kinshasa, RFI.
Kinshasa, 7h43, vous retrouvez Nathalie Amar.